Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact qui vous accompagne pendant une heure sur les ondes de Maliba FM à Bamako, sur le 99.5 FM. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le Niger qui nationalise son eau au nez et à la barbe de la France, les forces armées maliennes qui ont repoussé plusieurs attaques terroristes en une journée, et Israël qui pourrait essuyer une défaite stratégique à Gaza, selon le chef du Pentagone. Les premiers navires russes chargés de céréales gratuites arrivent en Afrique. Quatre experts africains réagiront à cet événement. Après la libération de Kidal par les forces armées maliennes, l'armée burkinabé remporte des victoires contre les terroristes. Un enseignant-chercheur burkinabé analysera les raisons de ces succès. Les médias français semblent avoir commencé à préparer leur audience à la défaite de l'Ukraine. Le président d'un parti politique français réagira à ce changement de narratif. Le Niger a remporté la bataille de l'eau face à la France. Niamey a décidé de nationaliser l'exploitation de son eau potable en mettant fin au contrat avec le géant français Veolia via sa filiale SEN. Le document arrivera à son terme le 31 décembre. C'est la Nigérienne des Eaux, société d'État, qui reprendra le contrat d'exploitation. Cette décision s'inscrit dans un contexte de bataille pour l'eau amorcée en février dernier. Contrarié par les partenariats noués entre la Russie et le Niger, l'ambassadeur français Sylvain Ité avait invité les Nigériens à arrêter de boire de l'eau puisque celle-ci est européenne. Cette sortie avait suscité l'indignation, notamment de l'ex-sénateur ivoirien Jean-Baptiste Pagny qui avait rétorqué que la France pouvait bien arrêter d'utiliser ses centrales nucléaires puisque celles-ci fonctionnent avec de l'uranium nigérien. Face au tollé suscité, l'ambassadeur français s'était excusé. Quelques mois plus tard, il a été prié de quitter le pays par les nouvelles autorités en poste à Niamey depuis juillet dernier. Son départ a notamment fait l'objet d'un bras de fer diplomatique entre le Niger et la France. Nous avons évoqué cet épisode dans nos précédentes émissions. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir repoussé des attaques terroristes dans quatre localités du nord du pays. Selon le communiqué de l'armée malienne, les terroristes ont visé quatre postes militaires dans les localités de Labezagan, Gossi, Tessalit et Menaka. À Gossi et Tessalit, les groupes terroristes ont procédé à des tirs de harcèlement et des tirs indirects. À Labezagan, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite. À Menaka, ville importante du nord-est du Mali, située à proximité de la frontière avec le Niger, les FAMA ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et l'interpellation d'une vingtaine, et ce, malgré une concentration importante de combattants terroristes, a assuré l'armée malienne. Israël pourrait essuyer une défaite stratégique à Gaza. C'est l'avis du chef du Pentagone, Lloyd Austin, qui a lancé un avertissement en ce sens à l'occasion du forum Reagan sur la défense nationale. Selon le responsable américain, dans ce genre de combat, le centre de gravité est la population civile. Si vous la poussez dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique. Il a ensuite ajouté que l'on pouvait gagner une guerre urbaine uniquement en protégeant les civils. Pour rappel, le conflit israélo-palestinien connaît une nouvelle escalade depuis le 7 octobre dernier, suite à une attaque sur Israël par le Hamas. En représailles, Israël a lancé une opération militaire sur la bande de Gaza. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé que plus de 15 000 personnes ont été tuées, dont 70% de femmes et d'enfants depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. De son côté, Israël fait état de 1200 personnes tuées et de plus de 9000 blessés, ainsi que de 136 individus retenus en otage par le Hamas. Le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne, Daniel Hagari, a annoncé que son armée étendait à partir d'aujourd'hui ses opérations dans la bande de Gaza, laissant entrevoir un bilan humain davantage plus lourd. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le premier navire russe chargé de céréales est arrivé en Somalie le 30 novembre dernier. Une cargaison de 25 000 tonnes a été remise aux autorités de ce pays africain. Le navire a ensuite pris le large, plus au nord, où il doit livrer du blé russe au Burkina Faso. Le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a déclaré en novembre que d'autres navires chargés de céréales à destination du Mali, de la RCA, de l'Érythrée et du Zimbabwe partiront avant la fin de l'année. Pour rappel, suite à la suspension de l'accord céréalier en juillet dernier, Vladimir Poutine avait promis lors du dernier sommet Russie-Afrique d'envoyer à titre gratuit des céréales aux pays africains les plus pauvres dans les prochains mois. Pour revenir sur le début de ces livraisons de céréales russes, quatre experts se sont succédés à notre micro. Je vous présente Malik Niang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest, Ludovic Tapsoba, secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, Idrissa Ouedraogo, directeur général de l'entreprise Burkina Meta, et Moussa Nabi Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Niang, la première cargaison de céréales que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains vient d'arriver en Somalie. Quel commentaire pouvez-vous nous faire ?
Oui, ce que nous pouvons dire, alors oui, bien entendu, c'est une excellente nouvelle, c'est une grande nouvelle. À peu près 4 mois après donc d'avoir annoncé l'assistance donc de la Russie à certains pays africains en ce qui concerne l'accès à des céréales stratégiques, nous voyons que le résultat donc est là. Donc l'objectif a été atteint pour déjà un premier pays qui est la Somalie. Nous attendons de voir pour les autres pays, mais nous ne doutons pas du tout, bien entendu, que à l'instar de la Somalie, tous les autres pays vont bien entendu bénéficier de cette assistance, combien cruciale quand on regarde les temps que nous vivons actuellement. Donc en ce qui concerne donc bien sûr la République centrafricaine, le Burkina également, nous sommes vraiment en attente de voir que ça sera fait dans pas longtemps. Et c'est vraiment une grande nouvelle et on comprend bien entendu que la Russie tient parole.
Et vous, monsieur Tapsoba, quelle est votre réaction à cette nouvelle ?
Chose promise, chose due. Ainsi pourrait-on justement résumer l'acte posé par la Fédération de la Russie. En effet, je dirais que force est de constater qu'après ce geste, le président Vladimir Poutine prouve une fois de plus aux yeux du monde qu'il est un homme de parole et non un marchand d'illusions. Je n'ai jamais douté un seul instant que la promesse justement du président russe n'allait pas être honorée. Contrairement à certains dirigeants qui se permettent de faire de fausses promesses aux pays africains juste pour recueillir des voix favorables lors de certaines questions essentielles à l'ONU. Et ce don gratuit, sans doute, va permettre aux pays bénéficiaires de résoudre un tant soit peu leurs problèmes céréaliers. En effet, ce geste-là est indispensable et sauvera des milliers de vies d'enfants atteints de malnutrition chronique dans les zones de ces pays africains à fort défi sécuritaire. Je dis aussi que ce geste entre dans le cadre d'une assistance humanitaire d'urgence que nos pays africains ont besoin, car avec les différentes guerres, les populations déplacées malheureusement n'ont pas pu effectuer les travaux champêtres, d'où ce déficit céréalier en Afrique. Et ça sera vraiment très bénéfique pour ces pays tels que le Mali, la RCA, la Somalie, le Burkina Faso et le Niger, qui en ont vraiment besoin de cette aide alimentaire d'urgence. Ce geste, je dirais, est très important pour les pays bénéficiaires, car depuis l'opération militaire russe en Ukraine, certains Occidentaux alliés justement aux Ukrainiens, de tourner les cargaisons destinées à l'Afrique vers d'autres pays qui, pour la plupart, n'en ont pas besoin et c'était juste pour faire de la spéculation. La Russie a une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'elle est soucieuse des difficultés rencontrées par les Africains dans le contexte du déficit céréalier en respectant ses engagements. Pour nous, la nouvelle génération des Africains, nous pensons que pour de tels accords, il serait de bon ton d'associer les Africains qui ont aussi des priorités comme le développement du secteur agricole plutôt que l'assistance humanitaire. Il serait souhaitable que pour l'avenir, nous puissions nouer des partenariats avec la Russie pour le développement de l'agriculture en Afrique, notamment justement de ce blé, car pour le Burkina, par exemple, nous savons que nous avons des terres arables où nous pouvons produire des milliers et des milliers de tonnes de céréales, notamment le blé. Justement, cette démarche nous permettra de nous départir de l'aide qui, en fait, ne fait que nourrir l'aide. Évitons de donner du poisson aux gens. Plutôt, apprenons-les justement à pêcher le poisson. C'est ça qui est vraiment durable pour nous, les Africains.
Monsieur Ouédraogo, quel commentaire pouvez-vous nous faire à cette nouvelle?
C'est avec beaucoup de bonheur que lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet dernier, nous avons accueilli l'annonce du président Poutine qui promettait de livrer des céréales à 6 pays africains. Bien sûr, cette décision est encore pour répondre à une certaine injustice parce que l'accord qui avait permis que des céréales puissent quitter l'Ukraine pour d'autres pays qui en ont réellement besoin, quand on regarde de près, ce n'est pas sûr que ces céréales soient allées vers les pays dont le besoin est réel. Ce n'est pas certain que ces céréales soient allées vers des pays pour sauver des vies en danger parce que menacées par la crise alimentaire. Et je pense que c'est pour réparer encore cette injustice-là et que la décision a été prise. Donc, nous la saluons à juste titre. Et pour revenir au Burkina Faso qui en est bénéficiaire, il faut dire que cette aide va beaucoup soulager la population burkinabè. Vous connaissez la situation actuelle où nous avons près de 2 millions de déplacés. Et quand on regarde la structuration de ces couches sociales déplacées, c'est des gens qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Et du fait qu'elles ont été chassées de leur village, des territoires dans lesquels ils produisaient, ils sont là sans la moindre activité économique. Donc, naturellement, avoir à manger devient très difficile. Et donc, cette aide viendra en tout cas soulager énormément ces populations-là qui sont menacées par cette crise alimentaire. Certes, le gouvernement se bat beaucoup sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Des mesures endogènes avaient été prises pour juguler cette crise alimentaire. Mais il faut dire que l'aide de la Russie, nous avons appris que déjà 25 000 tonnes sont en route pour le Burkina Faso et vont arriver très bientôt. Cette aide-là, en tout cas, sera très capitale, va beaucoup permettre à résorber les difficultés d'alimentation que connaissent nos populations actuellement.
Et vous, Monsieur Diakité, comment réagissez-vous au début des livraisons gratuites de blé russe?
Des sources officielles, nous apprenons que la Russie a tenu promesse avec la livraison de premières cargaisons de céréales aux pays africains à qui il avait été fait promesse lors du sommet Afrique-Russie. Et je pense que c'est une nouvelle qui va aider à apaiser la situation de flambée des prix dans les pays africains qui étaient touchés par la suspension de l'accord de livraison de céréales, qui notamment touchait beaucoup de pays de l'Afrique du Nord, qui avait aussi eu une incidence sur le prix du blé en Afrique. Et je pense que cette livraison va d'abord, dans un premier temps, essayer d'atténuer la forte demande en blé pour la production des aliments de première nécessité qui sont consommés par d'énormes foyers africains. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, surtout aussi pour le renforcement des liens de coopération entre l'Afrique et la Russie. Et aussi, ça rentre dans le cadre, dans un cadre de renforcement aussi des liens de sincérité, de la coopération. Parce qu'on dit toujours que le bon compte font les bons amis. Et tenir cette promesse-là, cette phase aiguë à ce moment décisif où le besoin est là, est vraiment de très grande importance. Surtout bientôt que beaucoup de pays africains musulmans vont faire face au Ramadan. Je pense que ça va aider à tenir la situation un peu sur le long terme.
Monsieur Diakité, la promesse faite par Vladimir Poutine a donc été honorée. Comment jugez-vous le résultat?
Et comme je le disais, ce geste est très important pour la suite de la coopération entre l'Afrique et la Russie. Du moment que ça renforce les liens, du moment que ça aide les dirigeants partenaires de la Russie à faire face aux fortes demandes de la population, surtout pour ce denrée alimentaire qui est très très demandé et prisé sur le marché africain. Et je pense que déjà avec ce qu'on dit, la livraison gratuite, je pense que ça va aider même l'économie à s'estabiliser un peu dans ces pays-là, parce que le coût de l'exportation par les commerçants, le transport logistique et tout que la Russie a assuré, je pense que cela va énormément aider et renforcer vraiment la confiance entre la Russie et ses États partenaires.
Monsieur Ouédraogo, quelle évaluation du résultat pouvez-vous nous faire?
Oui, la promesse a été honorée à plus d'un titre. Et quand il faisait son annonce, il a dit que ce sera fait dans 3 à 4 mois. Le délai a été respecté. La promesse même, ils ont dit que ce sera entre 25 000 et 50 000 tonnes pour chacun des 6 pays. Cela aussi a été respecté. Le don même en tant que tel a été respecté. Donc déjà, c'est un grand soulagement pour notre pays et bien sûr pour les autres pays qui vont recevoir cette aide-là. Et donc, c'est pour dire que l'appréciation que nous faisons, c'est aussi l'utilité de cette aide pour notre population. Parce que comme je l'avais dit auparavant, ça va vraiment contribuer à soulager beaucoup la population qui va en bénéficier. Voilà, et même par ricochet, l'économie burkinabé, parce que ça va contribuer à resserrer aussi un certain étau. Voilà, et ça permettra de redistribuer des ressources vers d'autres domaines de développement.
Et vous, Monsieur Nyong, qu'en pensez-vous?
Monsieur Vladimir Poutine joint donc la parole à l'acte et ce n'est qu'à saluer. Vous savez, la majeure partie des collaborations parfois entre les pays africains et d'autres pays se fait avec des promesses non tenues pour la plupart du temps. Aujourd'hui, nous voyons que la parole a été jointe à l'acte et un premier pays, la Somalie, est en train de recevoir une aide combien cruciale. Donc, nous ne doutons pas que les autres pays effectivement seront la suite sur la suite donc de la liste et nous attendons impatiemment que les pays comme le Burkina, comme la RCA qui traversent des difficultés comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, c'est pas que eux seuls qui ont besoin de cela, mais bon, nous pensons que en termes de priorité le Burkina est prioritaire et c'est une excellente chose que nous voyons que Monsieur Vladimir Poutine tient parole et c'est très apprécié, surtout par les moments dans lesquels nous passons au niveau régional, mais même au niveau mondial.
Monsieur Nyang, dans quelle mesure ce geste est-il important pour les pays concernés, dont le Burkina Faso, le Mali, la RCA et d'autres?
Aujourd'hui, nous traversons des moments extrêmement tendus, difficiles, que ce soit au niveau de l'accès donc des produits donc de première nécessité, donc la nourriture, et avoir ce genre d'accès à cette quantité de céréales, surtout pour terminer l'année, en tout cas entamer l'année 2024 dans de meilleurs auspices, dans de meilleures conditions, ce n'est que salutaire. Et je le dis encore, le fait que un grand pays comme la Russie puisse effectivement joindre la parole à l'acte, cela a un, cela a une grosse et une grande signification pour nous. Ça veut simplement dire qu'en termes de partenariat, on a en face un partenaire fiable qui semble-t-il donc respecte ses engagements, et ce qui est très important quand on veut nouer des quand on veut nouer des relations sur le long terme. Il est important que les signaux soient verts. Il est important que les prémices de cette collaboration là puissent quand même être positives. On voit que ce qui a été décidé a été acté, et pour le bien-être des populations donc de la région.
Et vous, Monsieur Ouédraogo, en quoi ce geste est-il important pour les pays en question?
Oui, il est, dans quelle mesure il est important? Il est important parce qu'il va contribuer à sauver des vies. Hein? Donc, important parce qu'il est le symbole que les relations que nous sommes en train de développer avec la Russie sont des relations stratégiques sincères. Et comme je l'ai dit aussi, il est important parce que une fois que les conditions de vie d'une partie de votre population s'améliorent, c'est le niveau même de l'économie qui s'améliore, et ça fait une certaine assurance pour le développement du pays. Et vous savez, nous, nous sommes en train de vivre un certain nombre de crises, particulièrement de Burkina Faso. Donc, voilà que ça va venir quand même soulager de côté crise alimentaire. Voilà. C'est important parce que bon, pour les autres pays aussi, en tout cas, ça nous met tous en confiance, et ça ne fait que contribuer à raffermir et à croire à la sincérité de nos relations avec la Russie.
Et vous, M. Diakité, qu'est-ce que vous en pensez?
Et comme je le dis, dans les pays comme le Mali, le Burkina, la République centrafricaine sont beaucoup dépendants du blé et aussi du sucre et tout. Et nous traversons des moments où nous faisons, la population fait une forte demande de ces denrées parce que le pain qui est produit à base de blé, le sucre et tout, surtout en cette période d'approche du Ramadan, je pense que ça va aider les commerçants de ces pays-là, les distributeurs de ces pays à faire face à la demande de la population, puisque la population, la consommation de la population va de façon exponentielle. Donc, ça va aider dans un premier temps de se stabiliser, d'avoir une période de répit, et aussi maintenant de favoriser l'achat par ces pays africains du blé russe avec et surtout si cette première livraison se fait dans de bonnes conditions après la suspension. Et je pense que ça va renforcer les liens de coopération de coopération commerciale entre ces pays et surtout la Russie. Déjà que il y a une coopération sur beaucoup d'autres plans, c'est-à-dire sécuritaire surtout. Et je pense que si c'est la coopération économique commerciale aussi s'ajoute et se renforce déjà par cette première promesse tenue, je pense que c'est une bonne chose et ça va changer énormément de donnes, ça va changer de perception chez les populations et chez les dirigeants.
Monsieur Diakité, le volume de ces nouvelles livraisons correspond à celui prévu par l'accord céréalier que la Russie a suspendu, car il était désavantageux pour l'Afrique. Dans quelle mesure peuvent-elles les compenser?
Effectivement, le volume un peu élevé, et surtout qu'il correspond à celui qui avait été prévu par l'accord céréalier que la Russie a suspendu. Bien sûr, la Russie a privilégié les avantages de l'Afrique, car des livraisons ont été détournées au profit du marché européen, pour les populations européennes qui étaient en fort manque de céréales. Donc, je pense que malgré le vide qui avait été créé, je pense que ça peut le compenser pour un bon bout de temps, le temps d'explorer les nouvelles pistes de livraison qui sont ainsi dégagées, et aussi de voir la fiabilité des transactions, de l'envoi. Donc, je pense que ça peut compenser, surtout à long terme.
Monsieur Ouédraogo, quel est votre avis sur cette question?
Je pense que ça, c'est pas seulement que ça va le compenser. Ça va jusqu'à au-delà de le compenser. parce que ça devait venir, ce n'est pas venu. Maintenant, c'est venu directement par la Russie. Donc, du coup, je prends un exemple. Hein. Si les accords avec l'Ukraine devraient permettre que le Burkina reçoive 25 000 tonnes de céréales, bon, ça n'a pas été le cas. Et même si on n'avait pas arrêté ces accords, ce n'est pas certain que ces 25 000 tonnes de céréales qui allaient effectivement arriver. Mais là, c'est clair que les 25 000 tonnes de céréales ont quitté les ports russes directement pour le Burkina Faso. Donc, vous voyez pourquoi je parle. Je dis que ça ne compense pas, mais ça va même au-delà de la compensation. Parce que ça, c'est clair que nous allons recevoir 25 000 tonnes de céréales. Et, du point de vue soulagement, les problèmes sécuritaires que ce manque à gagner allait créer, l'arrivée de 25 000 tonnes de céréales va résoudre ce problème-là.
Et vous, M. Nyong, qu'en pensez-vous?
Oui, vous vous rendez compte que après un accord céréalier qui a, semble-t-il, passé beaucoup de mois sans aucun résultat probable, il a fallu une décision courageuse donc du président Vladimir Poutine pour, bien entendu, profiter donc pour directement adresser les besoins. Parce que l'accord céréalier, c'était bien entendu pour permettre aux pays les plus nécessiteux, ceux qui en avaient le plus besoin, d'avoir accès à ces céréales-là. Il y a eu un accord céréalier qui était là, mais dont une infime partie seulement a pu atterrir chez les Africains. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas dans le sens même et dans l'idée même de cet accord céréalier-là. Donc, nous nous rendons compte qu'il a fallu que une décision courageuse d'annuler donc cet accord-là et de prendre le taureau par les cornes. Et voilà, aujourd'hui, quelques mois après, à peine 4-5 mois, je crois, nous avons les premiers bateaux qui arrivent, et c'est ce qui avait été annoncé depuis un moment avec un accord. Et c'est pareil même pour les engrais. Il y a eu cet accord-là sur les engrais. Jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, aucun pays n'a pu bénéficier de ces accords-là. Donc c'était une décision courageuse que nous saluons, et nous pensons qu'il faut aller de l'avant. La relation et les relations entre la Russie et l'Afrique doivent dépasser donc cette notion de don et d'aide. Effectivement, quand il y a des moments difficiles, on apprécie l'aide de ses amis. Mais nous pensons, nous, aujourd'hui, que la relation entre la Russie et les pays africains et le continent africain, d'ailleurs, doit aller beaucoup plus loin dans la recherche, dans la science, dans l'éducation. Nous avons beaucoup à partager parce que la Russie est un pays c'est le plus grand pays au monde. Donc vaste, qui a une excellente connaissance de la gestion de l'étendue du territoire, qui a des connaissances poussées dans pas mal de domaines scientifiques. Donc nous pensons que on doit aller au-delà donc de ces collaborations où il y a des aides d'appoint, parce que c'est ce qu'on a habitué aux Africains, c'est de les aider. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a besoin, mais il est important que quand on va dans cette collaboration là, que ça aille dans une collaboration gagnant-gagnant pour toutes les deux parties, et donc on aille au-delà donc des dons, allons dans l'échange, dans les échanges commerciaux, dans la collaboration, dans le partenariat. C'est ce que nous attendons d'un partenaire comme la Russie. Je rajoute toujours, dans l'idée de compenser ou en tout cas d'améliorer la collaboration, c'est d'ouvrir des couloirs logistiques directement entre la Russie et l'Afrique, directement entre la Russie et l'Afrique de l'Ouest, du Centre, du Sud, de l'Est, etc. Extrêmement important qu'il y ait des connexions, qu'il y ait des communications, qu'il y ait des échanges, on va dire, directs. Cela va permettre que quand il y a une décision de ce genre, par exemple, de venir en support, de venir en assistance à un pays, que d'autres pays ne puissent pas bloquer, on va dire, l'envie souveraine d'autres pays de vouloir, par exemple, accéder à des partages de la recherche, des sciences, au niveau agriculture aussi, les échanges en termes de semences, en termes d'engrais, etc. Donc, nous pensons vraiment qu'il faut aller au-delà, ouvrir des couloirs logistiques, avoir des connexions directes avec la Russie et l'Afrique.
Monsieur Diakité, quels sont les avantages de l'approche russe par rapport à celle des pays occidentaux concernant le dossier céréalier ?
L'avantage pour la Russie, c'est encore de reprendre la main sur le dossier de céréales dont dépend des pays européens, énormément de pays africains. Et je pense que ça conforte la position de leader de la Russie sur ce secteur-là. Et aussi, ça va renforcer l'image là aussi pour dire que voilà, la Russie n'est pas pays si belliqueux que ça, mais c'est un pays partenaire, c'est un pays ouvert, mais c'est un pays qui fait respecter ses principes et ses valeurs. Et aussi, je pense qu'à long terme même, ça peut aider à désengorger la crise que le monde traverse. Et je pense qu'à long terme, il faudrait essayer de voir d'être plus flexible dans les traitements et dans les orientations avec la Russie et pour peut-être même la fin de ce conflit.
Et vous, Monsieur Ouédraogo, qu'est-ce que vous pensez des avantages de l'approche russe comparée à celle des pays occidentaux sur le dossier céréalier?
Je vais certainement me répéter. Il y a d'abord la sincérité de la coopération. Parce que la Russie, en faisant cette aide-là, c'est pour nous, c'est une aide désintéressée. Alors que depuis les indépendances, on a toujours bénéficié d'aides de ces Occidentaux, mais c'est des aides entre guillemets. C'est ce qu'on aime dire, donner de la main droite et reprendre de la main gauche. Alors que pour ce qui est en train de se passer entre nos pays et la Russie, ce n'est vraiment pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas vraiment de donner de la main droite pour reprendre de la main gauche. La Russie, en posant son acte, reconnaît la souveraineté de nos États. La Russie reconnaît qu'elle avait signé un accord avec l'Ukraine pour qu'on puisse soulager ces États qui sont dans le besoin et que malheureusement ce n'est pas le cas. Donc, elle prend la responsabilité d'elle-même d'agir de sorte à ce que le bénéfice arrive directement à ceux qui en ont besoin, que le bénéfice arrive directement au destinataire. Donc ça, c'est un avantage certain. Et comme j'ai dit, ce n'est pas par des calculs politiciens, par des calculs néocolonialistes que la Russie agit. Voilà. Donc, c'est un grand avantage.
Monsieur Diakité, quelle peut être la réaction de l'Occident à cette initiative russe? Doit-on s'attendre à des obstacles entravant les livraisons ou les ignoreront-ils?
Vous savez, je pense que la situation géopolitique et géostratégique mondiale même en train de changer. Je pense que l'Occident, dans la posture actuelle avec la création par le Mali, le Niger et le Burkina de l'AIS Liptako Gourma, je pense qu'avec le vent de d'épanouissement qui souffle en Afrique, l'Occident ne va pas essayer de poser des entraves à la livraison de céréales en Russie. Et je pense que l'Occident a intérêt à laisser faire pour s'occuper de redorer son image, son blason auprès des Africains, auprès des nations africaines qui aujourd'hui ont vu que la coopération avec l'Occident était désavantageuse. Elle était basée sur l'anarchie, elle était basée sur la condescendance, elle était basée sur un système colonial qui ne pouvait plus perdurer, qui ne perdure plus. Et je pense que les Africains s'affranchissent de jour en jour. Je ne pense pas que nous pouvons nous attendre à des obstacles. Peut-être qu'il peut y avoir des vérités, peut-être qu'il peut y avoir des volontés, des détournements encore de ces céréales et tout, mais je pense que pour l'heure, pour le moment, le plus important qui serait plus bénéfique pour l'Occident, c'est de coopérer, de laisser faire et d'ailleurs même de faciliter. C'est ce que je pense.
Monsieur Ouédraogo, je vous donne maintenant le mot de la fin. Comment l'Occident réagira à l'initiative russe selon vous?
Bon, il faut dire que l'Occident, si vous me permettez, je dirais, est en train de perdre le Nord. Quand on dit que tu es en train de perdre le Nord, ça veut dire que tu n'arrives plus à faire un jugement objectif par rapport à une situation donnée. C'est une expression, quoi. Et donc, vous savez, depuis que nous avons compris que, depuis que nous avons décidé de ne plus accepter le type de coopération qui nous a servi, le discours des Occidentaux est le même. Nous sommes manipulés par la Russie. Et donc, ça peut dire que, avec cette nouvelle aide, et le discours qui sera servi. Mais la réalité est que nous allons effectivement recevoir des céréales. La réalité est que ces céréales vont servir à sauver des vies dans l'ensemble des pays bénéficiaires. Voilà. Mais au lieu de voir l'utilité du geste, au lieu de voir l'humanisme qui se trouve derrière cette action-là, on va toujours dire ils font ça parce qu'ils ont besoin d'être les nouveaux maîtres de l'Afrique. Mais s'ils continuent de penser que les Africains ne sont pas capables d'analyser et de choisir qui est leur vrai partenaire, bon, qu'ils continuent d'être dans leur logique, quoi.
C'était Malik Niang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais de l'Afrique de l'Ouest, Ludovic Tapsoba, secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, Idrissa Ouedraogo, directeur général de l'entreprise Burkina Meta, et Moussa Nabi Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite pour Spoutnik Afrique. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je salue celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. Ces derniers temps, les forces armées maliennes et burkinabées enregistrent des succès clés dans leur lutte contre le terrorisme. Au Mali, l'armée malienne a libéré récemment la ville de Kidal qui était sous le joug des terroristes. Nous avions parlé plus en détail de cette victoire dans une précédente émission. Au Burkina Faso, c'est à Djibo que l'armée burkinabé a lancé récemment une offensive réussie en neutralisant 400 terroristes. Dimanche dernier, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés par des frappes aériennes de l'armée burkinabé sur l'axe Kaya-Dori dans la région du centre-nord, a annoncé le média d'État, la radiodiffusion télévision du Burkina. Parallèlement, dans la région, la présence militaire étrangère se réduit. La MINUSMA, qui était stationnée dans la ville de Kidal au Mali, est partie. Au Niger, le départ des soldats français se poursuit. Il y a également de grands bouleversements en matière d'alliances militaires. Le G5 Sahel, créé en 2014 afin de lutter contre le terrorisme, est amputé de deux de ses membres, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays africains emboîtent le pas du Mali qui avait quitté le groupe l'an dernier. Cette décision est loin d'être une surprise puisque ces trois pays ont signé une alliance commune appelée « Alliance des États du Sahel ». Le 1er décembre dernier, la première réunion des ministres des Affaires étrangères des trois États membres de l'alliance s'est achevée à Bamako. Les chefs de la diplomatie du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont appelé à renforcer leurs relations communes. Au micro de Spoutnik Afrique, Hyacinthe Vendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nasi Boni Bobo au Burkina Faso, est revenu sur les récents succès des militaires sahéliens. Monsieur Ouedraogo, qu'est-ce qui a rendu ces victoires possibles et qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité du pays ?
On sait récemment que les terroristes ont été délogés de leur fief, de leur citadelle au Mali, la ville de Kidal. Et de là, ils sont dans une débandade et dans une recherche de nouveaux repères. C'est dans ce contexte-là que moins de deux semaines après, on assiste donc à leur offensive contre la ville de Kibo et le camp militaire de Kibo. Pourquoi l'armée militaire, l'armée burkinabé a pu réagir de la sorte? Cela est lié à la rupture que le Burkina Faso a opérée depuis maintenant un an vis-à-vis de la coopération avec la France. Parce que ça fait 63 ans que le Burkina Faso est dans une coopération militaire depuis l'indépendance avec la France. Et cette coopération militaire avec la France n'a rien apporté de consistant à l'armée burkinabé, qui au contraire a été démantelée au fil du temps. Entre-temps, avec la révolution 1983-1987 du président Thomas Sankara, l'armée burkinabé s'était reconstituée, avait encore acquis un armement conséquent. Parce qu'à la mort de Sankara, l'armée burkinabé avait au moins 10 avions de combat. Mais depuis 1987, la mort de Sankara et le rapprochement de son successeur, le président Blaise Compaoré, avec la France, on a assisté à un démantèlement de l'armée burkinabé qui se retrouvait en 2015 sans aucun avion de combat. Et quand le président Traoré arrive au pouvoir en septembre 2022, il va opérer une rupture qui consiste donc à dénoncer les accords militaires avec la France qui nous empêchaient d'acquérir du matériel sans l'aval de la France et qui nous obligeait à avoir l'assistance de la France. Récemment, en 2020-2021, quand nous avions des attaques terroristes, il fallait l'intervention de l'armée française. C'est le drone français ou les vecteurs aériens français, leurs avions de chasse qui devait intervenir. On a vu des attaques comme l'attaque de Inata et autres, ou quand l'armée, ou encore l'attaque de j'oublie encore le nom, mais quand l'armée française n'intervient pas, il n'y a pas de show, il n'y a pas de secours. Il y a eu plusieurs batailles dans le Sahel comme ça, où quand l'armée française n'intervient pas, il n'y a pas donc de secours aérien, parce qu'on n'avait rien, on comptait simplement sur la France, qui souvent est de bonne volonté, souvent est de mauvaise volonté. Mais depuis la rupture opérée par le capitaine Ibrahim Traoré et le rapprochement fait avec le Mali et surtout avec la Russie, et depuis un an, l'armée burkinabé a pu acquérir une logistique incroyable en termes de matériel de combat au sol, en termes donc de matériel de combat aérien, en termes d'avions de chasse, en termes de drones, des drones venus donc d'autres pays partenaires, en plus de la Russie et la Turquie. Donc l'équipement est actuellement conséquent. Et la collaboration avec le Mali, avec donc la Russie, et récemment aussi avec la création de l'AES. L'AES, c'est quoi? C'est l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'AES est en train donc de mettre en place une convergence des forces militaires. Et tout cela participe donc de l'efficacité du combat. Si je prends l'exemple de Kidal, je reviens dessus, il y a eu une coalition des forces. C'est la même chose aussi ici. Parce que le ratissage a été aussi assuré par un appui du Mali, donc qui a permis de verrouiller toute la zone et donc de pulvériser les terroristes. Donc ça, c'est en termes d'équipement, de logistique, la rupture faite avec la France et le rapprochement fait avec le Mali, la Russie, ont permis à l'armée burkinabé d'acquérir de nouveau un armement nouveau et d'être à mesure donc de mener des offensives et des contre-offensives de taille. L'autre élément important, c'est la confiance. La psychologie de l'armée a changé depuis donc ces alliances avec ces États dont j'ai parlé. Les militaires sont dans une posture de dynamique. De par le passé, l'armée burkinabé était une armée qui était à la défensive. Mais maintenant, l'armée est à l'offensive. C'est vrai que l'attaque de Dimash a été initiée donc par les terroristes, mais l'armée était en pointe. Et les drones avaient déjà permis de surveiller, d'avoir une surveillance du territoire et de voir venir la préparation terroriste depuis donc la veille. Voilà autant d'éléments. L'armée burkinabé actuellement, les militaires sont dans une position d'assurance, de confiance, ce qui fait que le combat est mené sans peur et les gens sont prêts pour se sacrifier pour donc la survie de la nation. Voilà donc ce que je peux dire dans ce qui a permis, et même la récente victoire de Kidal aussi participe de la motivation des troupes, de la confiance que l'armée a pu avoir. Et même cette collaboration avec la Russie, c'est un élément que j'allais aussi occulter, a permis aussi d'accroître la capacité du renseignement militaire, le renseignement. L'Agence nationale du renseignement avait été en tant que victime donc d'infiltration d'ennemis proches donc de l'impérialisme de la France, de la Côte d'Ivoire et autres. Mais depuis quelques semaines, ça a permis donc de peaufiner le renseignement et d'être donc dans l'anticipation que donc de rester attentiste et de se faire surprendre par l'ennemi. Il faut dire depuis aussi l'arrivée du président Traoré, l'équipement là, puisque avant ça, les armes étaient achetées avec la France, c'était extrêmement cher. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle relation avec la Turquie et la Russie, ça fait que les armes ne coûtent plus cher. Ça fait que on a pu équiper les VDP. Les VDP, ce ne sont pas des militaires, mais ce sont des civils. Les VDP, c'est les volontaires pour la défense de la patrie. Et actuellement, on en a au Burkina près de 90 000 VDP qui appuient les soldats, parce que les soldats ne dépassent pas 20 000, ils ne sont pas nombreux. Mais les VDP sont les plus nombreux et ils sont équipés en armes, en fusils, en munitions et en tenues. Et ils ont un appui conséquent pour donc accompagner l'armée. Ce qui fait que l'armée est effectivement actuellement en position de force et peut donc riposter à tout et même mener ses propres offensives.
Les forces armées maliennes ont récemment libéré la ville de Kidal. Forcé de constater que depuis le retrait des troupes occidentales de la région, ces victoires sont de plus en plus nombreuses. Peut-on y voir une simple coïncidence selon vous?
Il y a une corrélation. Parce que Kidal était cette base terroriste, cette citadelle où les terroristes avaient, bon, avec l'espace, avec l'aéroport, les pistes d'atterrissage et de décollage, c'est-à-dire à tout moment, les terroristes pouvaient avoir l'approvisionnement en armes, en drogue, en argent, en logistique pour leurs activités. Mais depuis que Kidal est tombé, c'est comme s'ils n'ont plus de repères. Leur source d'approvisionnement première a été donc coupée, déstabilisée. Donc du même coup, n'ayant pas une base arrière, n'ayant pas donc un point d'ancrage, les terroristes sont en perte de vitesse dans le Sahel. Ils sont obligés donc de se retirer dans des positions retranchées dans le désert pour à partir de là mener quelques offensives, mais qui ne sont plus de taille. C'est vrai que l'attaque de Gibo était regroupée près de 3000 terroristes, mais il a fallu vraiment un effort de leur part pour pouvoir rassembler un tel monde et mener donc une offensive. Donc je crois que tout cela aussi est à l'actif donc toujours de la collaboration entre l'armée malienne, les FAMA, et puis donc la Russie. Ça a participé donc à renverser le rapport de force. Parce qu'avec le départ des forces européennes qui servaient donc de forces d'interposition entre les rebelles, les terroristes et puis l'armée malienne, ces forces-là n'ont pas joué franc jeu et ont permis l'expansion du terrorisme, ont permis donc le maintien de leur position à Kidal depuis longtemps. Mais depuis que les forces européennes sont parties, vous voyez qu'en moins d'un mois, Kidal est tombé. Kidal est tombé, alors que Kidal et Bamako, c'est pas moins de 1400 km à peu près. C'est une grande distance. Mais l'armée a fait donc un mouvement très héroïque. Donc je crois que c'est un signal fort, la chute de Kidal. Et la chute de Kidal préfigure, j'allais dire, la fin du terrorisme au Sahel. Ça, c'est évident, parce que c'est un repère, c'est un point d'ancrage qui est tombé. Et à partir de là, je crois que les terroristes n'auront plus de refuge. C'est vrai qu'au Niger, ils ont encore des positions qu'ils tiennent, mais ça ne sera pas pour longtemps. Donc, toutes ces victoires, toutes ces raclées que les terroristes sont en train de subir là, sont à l'actif de la chute de Kidal. Et c'est évident que dans un an, deux ans maximum, même si on va continuer de parler de terrorisme dans le Sahel, ça sera des effets résiduels, ça sera donc des attaques à contre-gouttes, des attaques sporadiques. On ne pourra plus les avoir de façon permanente et de façon récurrente parce que c'est la racine du mal, Kidal, qui a été donc déracinée. Quand vous voyez comment tout est parti, depuis la chute donc de Kadhafi, les terroristes sont partis de la Libye, se sont répandus au Mali, donc dans les années 2011-2012. Et depuis lors, là, ça s'est métastasé dans toute la zone. C'est vrai que le Niger connaissait donc des rébellions depuis donc l'indépendance, mais c'était pas une forme donc de terrorisme comme on le voit aujourd'hui. Le Burkina Faso n'en connaissait même pas. Tout est parti donc de l'occupation de la partie nord du Mali par donc les terroristes. C'est de là que les groupes comme ACMI, le Génim, le Moudiao et voilà plein d'autres en Sardine ont pu prospérer. Donc aujourd'hui, cette zone étant libérée, et comme l'armée malienne est en train de monter en puissance toujours, d'ici là que les terroristes n'aient plus de repères au Mali, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Le Burkina Faso n'est pas trop vaste pour leur permettre des mouvements. Le Niger est vaste, mais avec la création de l'AES, et actuellement, ils sont en train de mettre en place une force conjointe, c'est-à-dire une force militaire de l'AES, avec donc tout le programme qui accompagne l'AES, programme économique, programme politique, programme monétaire. Alors, je crois que la base de financement, d'équipement, de renseignement et de mobilité même des terroristes là sera atteinte. Et d'ici là, ça sera donc la fin du terrorisme dans le Sahel. Et comme je l'ai dit, c'est à l'actif donc de nouveaux partenariats qui émergent, voilà, entre les États sahéliens et aussi avec de grands partenaires internationaux comme la Russie, comme la Turquie, comme la Chine, et bien d'autres pays qui ont bien voulu accompagner, contrairement à la France et aux États impérialistes qui, depuis longtemps, n'ont pas joué franc jeu n'ont pas voulu qu'on s'équipe, ont voulu faire la guerre par procuration, sans pour autant avoir la volonté aussi de le faire.
C'était Hyacinthe Venlarima Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'université Nasi Boni Bobo pour Spoutnik Afrique. Il a analysé les récentes victoires militaires maliennes et burkinabées dans leur lutte contre le terrorisme. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Aujourd'hui, pour vous accompagner, Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact. Bienvenue à vous qui venez nous rejoindre. Il faut se préparer à de mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine. C'est par cette phrase prononcée à l'occasion d'une interview sur la chaîne de télévision allemande Das Erst que le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a commenté la situation en Ukraine. Il a admis que l'Alliance n'était pas en mesure de satisfaire la demande croissante de munitions de Kiev et que l'Ukraine se trouvait actuellement dans une situation critique. Malgré tout, il a appelé à poursuivre le soutien à l'Ukraine dans les bons comme dans les mauvais moments. Car le conflit en Ukraine commence à lasser en Occident. Depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien a relégué les hostilités en cours en Ukraine au second rang et des médias commencent à changer d'angle sur leur couverture de la situation en Ukraine. Des journalistes d'une chaîne d'information française ont commencé à envisager une défaite ukrainienne, chose impensable il y a encore quelques mois. Ces dernières évolutions n'ont pas échappé à l'homme politique français Florian Philippot, président du parti Les Patriotes. Sur les réseaux sociaux, il a rappelé la nature des Occidentaux. Selon lui, les propos de M. Stoltenberg sont le signe qu'il est temps de se débarrasser du pantin Zelensky qu'ils ont créé, une pratique connue de l'État profond. Pour Spoutnik Afrique, Florian Philippot est revenu sur ses dernières déclarations. Écoutons-le. Vous avez affirmé sur les réseaux sociaux que le narratif changeait complètement dans les médias français sur la couverture du conflit en Ukraine. Ces derniers commencent à envisager une défaite de Kiev. Pourquoi cette prise de conscience arrive-t-elle seulement maintenant ?
Si le narratif change maintenant dans les médias français, c'est simplement parce qu'il copie les médias américains avec un petit peu de retard, comme d'habitude. Et en réalité, il faut maintenant habituer l'opinion publique américaine, mais aussi française et dans les autres pays occidentaux, à ce que nous allons laisser tomber l'Ukraine. Voilà. Après avoir expliqué qu'il fallait faire gagner Zelensky et l'Ukraine coûte que coûte, c'est ce qui a été dit pendant un an et demi. Maintenant qu'ils se rendent compte que de toute façon c'est foutu pour l'Ukraine et qu'ils n'ont plus les armes et les milliards d'euros et de dollars à mettre, ben il faut maintenant habituer l'opinion publique, donc changer complètement le narratif en lui expliquant que bon, de toute façon, c'était perdu, que Zelensky, de toute façon, est quelqu'un de très controversé, très critiqué en interne. Voilà. Et donc, le narratif change à 180 degrés, comme si de rien n'était. Bon, ben moi, j'espère que les gens ne seront pas dupes de ces méthodes.
On a l'impression que ce changement soudain du narratif s'est produit comme sur commande. Quelle force les médias français représentent-ils dans cette affaire et à qui peuvent-ils s'adresser ? À l'opinion publique française ou peut-être à Kiev ou à Washington ?
Oui, les médias français sont complètement dépendants du narratif imposé dans les grands médias américains et on voit bien qu'en réalité, c'est un état profond américain qui a décidé un changement de stratégie en Ukraine, déplaçant le regard sur le Proche-Orient, sur Israël et Gaza et considérant que Zelensky avait suffisamment servi et que maintenant, il fallait s'en débarrasser. Les États-Unis créent toujours des pantins, ils les aident, ils les utilisent, et puis ils s'en débarrassent une fois qu'ils n'en ont plus besoin. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec Zelensky. Les médias français ne font que répondre à cet agenda-là. Ça n'est pas un agenda français, c'est un agenda américain. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est une colonie des États-Unis, malheureusement. Et tant que notre France ne sera pas une France libre, libérée de l'OTAN notamment, et de l'Union européenne, bien sûr, alors elle sera une colonie des États-Unis et ces médias seront des colonies des médias américains.
Dans une interview à Politico, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré que son alliance devait se préparer à recevoir de bien mauvaises nouvelles en provenance d'Ukraine. Il ajoute qu'il laissera aux Ukrainiens et à leurs commandants militaires le soin de prendre ces décisions opérationnelles difficiles. Qu'est-ce que M. Stoltenberg veut dire en évoquant l'expression « décision opérationnelle difficile » ?
L'interview du numéro 1 de l'OTAN est très significative. L'OTAN a poussé l'Ukraine à y aller à fond, à sacrifier des hommes, à sacrifier énormément d'armement et d'argent. dans cette affaire, bien avant d'ailleurs février 2022, hein, puisqu'on sait que l'Ukraine a été utilisée comme base arrière de l'OTAN contre la Russie. Et maintenant que ça tourne mal, et maintenant que l'État profond américain a d'autres intérêts en vue, notamment au Proche-Orient, eh bien l'OTAN essaie de sauver son image et sa responsabilité en refilant la patate chaude, comme on dit en français, à l'Ukraine, en lui refilant la responsabilité. Et donc l'OTAN annonce que finalement ça va être compliqué, qu'il va falloir s'habituer à avoir de mauvaises nouvelles venant d'Ukraine, et que de toute façon ce sont les forces armées ukrainiennes qui allaient prendre la responsabilité des mauvaises choses à faire. Donc l'OTAN veut se laver les mains, repartir vierge de cette affaire. Donc on met en avant, on casse tout, et ensuite on fait croire que ça n'est pas nous pour aller vers une autre guerre. C'est ce qui se passe avec l'OTAN depuis des décennies, et ça doit cesser.
Vous avez déclaré à ce sujet sur les réseaux sociaux que l'État profond crée un pantin pour in fine le laisser tomber et le détruire. Pensez-vous que Zelensky a déjà joué son rôle et il n'est plus utile aux États-Unis et à leurs alliés de l'OTAN? Quel était ce rôle et quel sort peut maintenant, selon vous, attendre le président ukrainien?
Zelensky a été utilisé pour hystériser les opinions publiques occidentales contre la Russie. Zelensky a été starifié, on en a fait une vedette, on l'a invité même à la Mostra de Venise, à Cannes, sur tous les plus grands plateaux du monde, dans tous les parlements des pays d'Occident. On lui a remis des prix, on l'a affublé du nom de Churchill. Et le but, c'était que les opinions publiques apprécient ce personnage de cinéma, le considèrent comme une star du bien contre le mal. Et donc, il fallait s'identifier à lui, l'apprécier, l'aimer comme une star, comme on aime une star, comme on aime une vedette de cinéma, pour aimer le combat qu'il porte, c'est-à-dire un combat anti-russe. Ça, c'était la première étape. Mais une fois que ça a été obtenu, que les opinions publiques ont été chauffées à blanc contre la Russie et que sur le terrain, ça n'était pas gagnable, bah, il faut se débarrasser de ce personnage parce que il peut devenir gênant, il peut vouloir continuer des combats que l'OTAN n'a pas envie de continuer, il peut continuer à réclamer de l'argent et des armes alors que les pays occidentaux n'ont plus envie de donner de l'argent et des armes. Il peut continuer de faire de mettre la lumière sur son combat alors que la lumière est partie ailleurs, elle est partie au Proche-Orient notamment. Donc Zelensky devient gênant. Donc il faut maintenant se débarrasser du pantin. Donc d'un coup, on reparle de la corruption. On dit que finalement, il est très controversé dans son pays. On dit que de toute façon, sur le plan militaire, il a perdu, qu'il a pris de mauvaises décisions. Donc ça, c'est la meilleure manière pour s'en débarrasser. Et on arrête de le valoriser, de le starifier. On ne l'invite plus, on ne le traite plus de Churchill, etc. C'est classique, c'est bien fait, c'est du cinéma, c'est Hollywood. Mais au final, ce sont beaucoup de morts derrière tout ça et beaucoup de désastres. Pour répondre à la fin de votre question, je n'y ai pas répondu, le sort qui attend Zelensky maintenant, à mon avis, est un sort funeste. Je pense qu'il sera lâché et je ne suis pas certain qu'il sera capable de se maintenir au pouvoir parce qu'il y a beaucoup d'opposition qui monte en interne et il faudra donc s'en débarrasser. Voilà, je pense qu'il reviendra peut-être faire du cinéma ou jouer au piano.
La récente interview du commandant des forces armées ukrainiennes, Valery Zaloujny, sur la situation au front, continue de faire réagir en Ukraine. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a pris position en faveur du commandant ukrainien. Comment analysez-vous ces dissensions qui apparaissent chez les hommes politiques ukrainiens?
Je pense que les dissensions qui existent au sein de l'Ukraine ne sont pas nouvelles, mais qu'elles sont maintenant médiatisées et qu'on en parle, alors qu'avant on n'en parlait pas. Ça fait partie de cette stratégie de se débarrasser de Zelensky, c'est-à-dire qu'il faut montrer maintenant aux opinions publiques occidentales que Zelensky est très controversé, qu'il n'est pas si unanimement apprécié. Et donc, il faut montrer qu'il y a le maire de Kiev contre lui, qu'il y a le commandant en chef des armées contre lui, qu'il y a, j'ai vu d'autres prises de parole, des députés, etc., contre lui, qu'en plus, il est tyrannique parce qu'il supprime l'élection présidentielle qui était prévue en mars 2024. Donc, je pense que les oppositions sont surtout médiatisées alors qu'elles ne l'étaient pas avant, parce que ça ne rentrait pas dans le narratif du héros. Et en plus, elles sont valorisées probablement, elles sont excitées parce que Zelensky est affaibli. Comme il apparaît affaibli, bah, tout le monde se jette sur lui. Donc c'est assez classique. Voilà, donc ça sert un narratif de l'OTAN pour se débarrasser de Zelensky, essentiellement ça.
C'était Florian Philippot, président du parti politique français Les Patriotes pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les récentes déclarations du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, ainsi que le changement de narratif sur le conflit ukrainien qui s'opère actuellement dans les médias occidentaux. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet afin de suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.